que la mythologie rapetissait la nature, que les anciens n'avaient point de poésie proprement dite descriptive. Encore une fois, le polythéisme ne s'occupait point des vices et des vertus, il était totalement séparé de la morale. Or voilà un côté immense que la religion chrétienne embrasse de plus que l'idolâtrie. Voyons si, dans ce qu'on appelle le merveilleux, elle ne le dispute point en beauté à la mythologie même. Nous ne nous dissimulons pas que nous avons à combattre ici un des plus anciens préjugés de l'école. Les autorités sont contre nous, et l'on peut nous citer 20 vers de l'art poétique qui nous condamnent, et que l'objet, enfin, présenté aux yeux, etc. C'est donc bien vainement que nos auteurs déçus, etc. Quoi qu'il en soit, il n'est pas impossible de soutenir que la mythologie si vantée, loin d'embellir la nature, en détruit les véritables charmes, et nous croyons que plusieurs littérateurs distingués sont à présent de cet avis. Le plus grand et le premier vice de la mythologie était d'abord de rapetisser la nature et d'en bannir la vérité. Une preuve incontestable de ce fait, c'est que la poésie que nous appelons descriptive a été inconnue de l'Antiquité. Les poètes mêmes qui ont chanté la nature, comme Hésiode, Théocrite et Virgile, n'en ont point fait de description dans le sens que nous attachons à ce mot. Ils nous ont sans doute laissé d'admirables peintures, des travaux, des mœurs et du bonheur de la vie rustique. Mais quant à ces tableaux des campagnes, des saisons, des accidents du ciel, qui ont enrichi la muse moderne, on en trouve à peine quelques traits dans leurs récits. Il est vrai que ce peu de traits est excellent, comme le reste de leurs ouvrages. Quand Homère a décrit la grotte du Cyclope, il ne l'a pas tapissée de lilas et de roses. Il y a planté, comme Théocrite, des lauriers et de longs pins. Dans les jardins d'Alcinoüs, il fait couler des fontaines et fleurir des arbres utiles. Il parle ailleurs de la colline battue des vents et couverte de figuiers, et il représente la fumée des palais de Circé s'élevant au-dessus d'une forêt de chênes. Virgile a mis la même vérité dans ses peintures. Il donne au pin l'épithète d'harmonieux, parce qu'en effet le pin a une sorte de doux gémissement quand il est faiblement agité. Les nuages, dans les géorgiques, sont comparés à des flocons de laine roulés par les vents, et les hirondelles, dans l'Énéide, gazouillent sous le chaume du roi Évandre ou rasent les portiques des palais. Horace, Tibulle, Properce, Ovide ont aussi crayonné quelques vues de la nature, mais ce n'est jamais qu'un ombrage favorisé de Morphée, un vallon où Cythérée doit descendre, une fontaine où Bacchus repose dans le sein des Naïades. Et l'âge philosophique de l'Antiquité ne changea rien à cette manière. L'Olympe, auquel on ne croyait plus, se réfugia chez les poètes qui protégèrent à leur tour les dieux qui les avaient protégés. Stas et Silius Italicus n'ont pas été plus loin qu'Homère et Virgile en poésie descriptive. Lucain seul avait fait quelques progrès dans cette carrière, et l'on trouve dans la Pharsale la peinture d'une forêt et d'un désert qui rappellent les couleurs modernes. Enfin, les naturalistes furent aussi sobres que les poètes, et suivirent à peu près la même progression. Ainsi, Pline et Columel, qui vinrent les derniers, se sont plus attachés à décrire la nature qu'Aristote. Parmi les historiens et les philosophes, Xénophon, Tacite, Plutarque, Platon et Pline le Jeune se font remarquer par quelques beaux tableaux. On ne peut guère supposer que des hommes aussi sensibles que les anciens eussent manqué Dieu pour voir la nature et de talent pour la peindre si quelque cause puissante ne les avait aveuglés. Or, cette cause était la mythologie qui, peuplant l'univers d'élégants fantômes, ôtait à la création sa gravité, sa grandeur et sa solitude. Il a fallu que le christianisme vînt chasser ce peuple de faunes, de satyres et de nymphes pour rendre aux grottes leur silence et aux bois leur rêverie. Les déserts ont pris sous notre culte un caractère plus triste, plus grave, plus sublime. Le dôme des forêts s'est exaucé. Les fleuves ont brisé leurs petites urnes pour ne plus verser que les eaux de l'abîme du sommet des montagnes. Le vrai Dieu, en rentrant dans ses œuvres, a donné son immensité à la nature. Le spectacle de l'univers ne pouvait faire sentir aux Grecs et aux Romains les émotions qu'il porte à notre âme. Au lieu de ce soleil couchant, dont le rayon allongé tantôt illumine une forêt, tantôt forme une tangente d'or sur l'arc roulant des mers, au lieu de ces accidents de lumière qui nous retracent chaque matin le miracle de la création, les anciens ne voyaient partout qu'une uniforme machine d'opéra. Si le poète s'égarait dans les vallées du Tegète, au bord du Spercus, sur le Ménal et Médorphée, ou dans les campagnes des Laures, malgré la douceur de ses dominations, il ne rencontrait que des faunes, il n'entendait que des dryades. Priape était là, sur un tronc d'olivier, et Vertumne, avec les zéphyrs, menait des danses éternelles. Des sylvains et des naïades peuvent frapper agréablement l'imagination, pourvu qu'ils ne soient pas sans cesse reproduits. Nous ne voulons point chasser les tritons de l'empire des eaux, aux thérapates, sa flûte et parquent leurs ciseaux. Mais enfin, qu'est-ce que tout cela laisse au fond de l'âme? Qu'en résulte-t-il pour le cœur? Quel fruit peut en tirer la pensée? Oh, quel poète chrétien est plus favorisé dans la solitude où Dieu se promène avec lui! Libre de ce troupeau de dieux ridicules qui les bordait de toutes parts, les bois se sont remplis d'une divinité immense. Le don de prophétie et de sagesse, le mystère et la religion semblent résider éternellement dans leur profondeur sacrée. Prenez, pénétrez dans ces forêts américaines aussi vieilles que le monde. Quel profond silence dans ces retraites quand les vents reposent. Quelles voix inconnues quand les vents viennent à s'élever. Êtes-vous immobile? Tout est muet. Faites-vous un pas? Tout soupire. La nuit s'approche, les ombres s'épaississent, on entend des troupeaux de bêtes sauvages passer dans les ténèbres, la terre murmure sous vos pas, quelques coups de foudre font mugir les déserts, la forêt s'agite, les arbres tombent, un fleuve inconnu coule devant vous, la lune sort enfin de l'Orient. À mesure que vous passez au pied des arbres, elle semble errer devant vous dans leur cime et suivre tristement vos yeux. Le voyageur s'assied sur le tronc d'un chêne pour attendre le jour. Il regarde tour à tour l'astre des nuits, les ténèbres, le fleuve. Il se sent inquiet, agité, et dans l'attente de quelque chose d'inconnu, un plaisir inouï, une crainte extraordinaire font palpiter son sein comme s'il allait être admis à quelque secret de la divinité. Il est seul au fond des forêts, mais l'esprit de l'homme remplit aisément les espaces de la nature, et toutes les solitudes de la terre sont moins vastes qu'une seule pensée de son cœur. Oui, quand l'homme renierait la divinité, l'être pensant, sans cortège et sans spectateur, serait encore plus auguste au milieu des mondes solitaires que s'il y paraissait environné des petites déités de la fable. Le désert vide aurait encore quelque convenance avec l'étendue de ses idées, la tristesse de ses passions et le dégoût même d'une vie sans illusion et sans espérance. Il y a dans l'homme un instinct qui le met en rapport avec les scènes de la nature. Et qui n'a pas passé des heures entières assis sur le rivage d'un fleuve à voir s'écouler les ondes? Qui ne sait plus, au bord de la mer, à regarder blanchir l'écueil éloigné? Il faut plaindre les anciens qui n'avaient trouvé dans l'océan que le palais de Neptune et la grotte de Protée. Il était dur de ne voir que les aventures des Tritons et des Néréides dans cette immensité des mers qui semble nous donner une mesure confuse de la grandeur de notre âme, dans cette immensité qui fait naître en nous un vague désir de quitter la vie pour embrasser la nature et nous confondre avec son auteur.